Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Mignet, bonjour à tous.
Alors c'est décidément des petits matins très espagnols,
voilà,
puisque au sommaire cette question, avec votre invité donc, va-t-on éviter la guerre des nationalismes en Espagne?
En tout cas pour l'instant, avec cette victoire de la gauche, cette percée historique quand même de l'extrême droite, aucun parti en tout cas n'a de majorité seul après les législatives d'hier. Le rapport de force se recompose sans doute. Troisième législative en 3 ans et demi, campagne très clivante, proposition radicale, mais effectivement pas de guerre des nationalismes. Alors vers quoi on voit ça avec vous, Barbara Loyer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue, politologue spécialiste de l'Espagne, enseignante en géopolitique à l'Université Paris 8 et auteur de L'Espagne en crise, une géopolitique au 21e siècle. Alors pour l'Espagne intérieure, casse-tête ou casse-brique politique, l'extrême droite qui perce avec plus de 10% des voix, le Parti populaire, donc conservateur, qui s'effondre, le PS vainqueur, et puis surtout, étonnant, cette participation de 75,75%, 9 points de plus qu'en 2016. Est-ce que ce n'est pas la plus grande surprise d'abord de cette élection ?
Non, je ne pense pas, puisque cette élection a été vécue par de nombreux électeurs et journalistes comme une sorte de référendum, mais un petit peu sur la question de l'organisation territoriale de l'Espagne et du rapport au nationalisme périphérique. Donc du coup, les enjeux étaient très importants, et puis c'était la première fois qu'on savait que l'extrême droite arriverait à l'Assemblée, et par conséquent, la gauche s'est considérablement mobilisée, sans doute. Et le troisième point, c'est que vous aviez des nationalistes catalans en prison qui, eux, se sont beaucoup mobilisés pour donner la victoire au parti de ces personnes qui sont actuellement emprisonnées.
Donc un chiffre pas si étonnant, en tout cas souligné par le socialiste Pedro Sanchez dans son discours hier. Qu'est-ce que vous retiendriez d'abord de ce scrutin ? Est-ce que c'est cette victoire du PSOE, donc Parti Socialiste Espagnol, qui passe de 85 à 123 sièges ? C'est quasiment 50% en plus quand même.
Oui.
Victoire pleine ou victoire à demi ?
Ils espéraient avoir un petit peu plus de sièges pour avoir une équation électorale plus simple à gérer et pouvoir gouverner sans l'appui de nationalisme périphérique, puisqu'il leur a été beaucoup reproché de gouverner avec le soutien de partis qui veulent la fin de l'Espagne, qui veulent détruire l'Espagne telle qu'elle est. Donc là, ils se retrouvent quand même obligés de trouver une dizaine de voix, et que ces voix viendront sans doute de partis nationalistes, puisque le parti centriste Ciudadanos a gagné, on va dire, une très grande audience en mettant un veto d'avance à toute alliance avec Pedro Sanchez, parce que le Parti Socialiste avait pactisé avec des partis souhaitant l'autodétermination et la séparation de leur territoire du reste de l'Espagne. Donc, ça aurait sans doute pu être plus simple, mais ça n'en reste pas moins une victoire, qui était quand même une victoire annoncée par les sondages, même si rien n'était sûr, puisqu'il y avait un vote nouveau, qui était le vote d'extrême droite, que beaucoup d'instituts de sondage ont surestimé.
Oui, c'est ça. Avec une majorité, annoncée à 100, majorité absolue à 176 sièges, pour ce Parlement, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, un PS minoritaire, pour l'instant, avec ses 123 sièges. On va parler des possibilités d'alliance, mais vous avez cité Ciudadanos, donc ce parti centriste qui, lui, augmente nettement ses sièges. Il passe à 57 députés. Est-ce que c'est pas là aussi un des enseignements les plus étonnants, disons, c'est le côté très centriste de ce vote, alors qu'on l'attendait peut-être comme une explosion des extrêmes?
Oui, c'est vrai, je pense que c'est un des enseignements de ce vote. Je me souviens d'avoir dit en 2016, au moment des histoires de Catalogne, que l'Espagne était quand même un des rares États d'Europe qui était dans une situation quasiment post-nationale, en ce sens que la droite n'était pas nationaliste, n'avait pas anticipé la poussée nationaliste de Catalogne, n'avait rien fait contre. Et là, on se disait, alors, à cause de ce séparatisme catalan, voilà, on voit ressurgir un nationalisme espagnol qui, franchement, avait disparu. Il n'y avait pas de drapeau espagnol en Espagne. Donc là, il a en effet réapparu. Les gens n'ont pas peur en Catalogne ou au Pays Basque de montrer leur drapeau, mais Néanmoins, les Espagnols ont voté beaucoup plus pour une option centriste. Et ça, c'est, je pense, plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on s'attendait à une polarisation encore plus extrême qu'elle ne l'a été, ou que la Catalogne n'a montré qu'elle n'était, parce que c'est ça. La situation Catalogne nous montre une situation très polarisée, avec des gens qui sont très agressifs les uns envers les autres, surtout les nationalistes catalans, là, qui vraiment sont très très énervés, et considèrent que leur cause est véritablement sacrée, et au contraire, on a là un ensemble de l'électorat qui finalement s'est positionné beaucoup plus au centre qu'on ne pouvait l'attendre.
Et avec un parti populaire qui lui est par contre laminé, hein, puisqu'il perd la moitié de ses sièges avec 65 sièges aujourd'hui. À l'inverse, donc Vox qui n'augmente pas autant que c'était attendu. Hein, dans certains sondages, on lui donnait 30 ou 50 sièges. Là, il n'en a que 24. Quel rôle est-ce qu'il va pouvoir jouer dans ce Parlement, étant donné ce que vous avez dit sur ce parti? Peut-être on peut en dire un mot. Parti nostalgique du franquisme, ou en pure réaction aux événements de la Catalogne?
Non, je pense que ça serait bien de se dire que Franco est mort, et bien mort, et bien enterré, quoique, même si Pedro Sánchez a voulu ou souhaite le désenterrer et le mettre ailleurs, il est quand même mort depuis longtemps. En revanche, oui, Vox est un parti nationaliste espagnol qui met en valeur tous les symboles traditionnels, le folklore, la tauromachie. Enfin, c'est un parti hyper traditionnaliste, très conservateur. Parmi ces candidats, il y a quelques généraux qui avaient fait une déclaration pour soutenir, on va dire, la mémoire de Franco au moment où il faut le changer de tombe. Mais enfin, c'est à mon avis surtout un parti qui est né en réaction à la fois à l'indépendantisme catalan, qui fait que maintenant, en effet, en Catalogne, les indépendantistes, ils ont pour la première fois face à eux des gens qui n'ont pas peur de sortir leur drapeau de l'Espagne. Et ça, c'est la première fois que ça leur arrive. Et puis, en réaction aussi à la poussée de l'extrême gauche, à l'indignation d'extrême gauche de 2011-2014, qui avait amené Podemos au niveau qu'on connaît, là, c'est une réaction, c'est une indignation d'extrême droite, on va dire. Et donc, qui a beaucoup réagi à, notamment à toutes les lois sur les questions de féminisme, de protection,
les lois qu'on dit anti-machistes,
oui. Anti-machistes, etc.
D'où les propositions assez radicales, effectivement, de suppression de ces lois anti-machistes, un certain nombre d'autres mesures. Alors maintenant qu'on parle des alliances, il y aurait donc deux possibilités pour ce PS en minorité pour l'instant, ou bien gouverner avec Podemos, hein, son allié déjà traditionnel, ce parti d'extrême-gauche qui est aujourd'hui à 42 voix, mais ça ne lui donnerait pas cette majorité absolue. Il faudrait là s'allier avec les nationalistes catalans une nouvelle fois. C'est ce qu'on appelle une majorité Frankenstein en Espagne. Est-ce que c'est possible de nouveau?
Ben, je vois pas bien comment ils pourraient faire autrement. Ils auront l'appui des nationalistes basques du PNV. Ça leur a déjà été proposé avant les élections, l'appui de Bildu, qui est le parti issu de l'ETA, on va dire, enfin qui a pris la suite de ce qu'était l'ETA. Donc ça fait grincer des dents, puisque il y a quand même des gens qui ont soutenu l'ETA à son époque. Mais je ne pense pas qu'ils puissent véritablement les refuser, à moins qu'ils fassent un mixte entre des nationalistes catalans et des nationalistes basques qui n'ont pas été des soutiens de l'ETA, je ne sais pas. Enfin, il peut faire des choix à l'intérieur des nationalistes. Je ne vois pas bien comment il peut faire autrement, puisque le parti centriste, avec lequel il pourrait avoir une majorité absolue, a dit que non.
Et avec sans doute la nécessité du coup de faire des concessions peut-être à ces nationalistes, on verra. Et une alliance alors qu'on dirait peut-être contre nature ou improbable avec Ciudadanos, ces centristes donc qui ont le vent en poupe, on va dire. Est-ce qu'elle est possible? Pedro Sánchez, chef des socialistes, ne l'a pas exclu, même si Rivera, le chef de Ciudadanos, a dit qu'il voulait chasser Sánchez du pouvoir, difficile à dire.
En fait, théoriquement, ça devrait pas être l'alliance contre nature. Ce sont des partis constitutionnalistes ou qui veulent réformer la constitution, mais la réformer, pas d'autodétermination. Donc, ça serait plutôt celle-là, l'alliance, on va dire, naturelle. Maintenant, Sánchez, il peut peut-être aussi gouverner en minorité. et puis à obtenir du coup sur des questions constitutionnelles un certain nombre de voix au coup par coup par ces partis constitutionnalistes pour éviter de faire un pacte de gouvernement pour les années qui viennent. Donc ça reste à mon avis quand même assez ouvert. C'est vrai que Ciudadanos a pu obtenir ce très bon résultat sans doute parce qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas de pacte avec Sanchez, donc ils ont pu mordre sur la droite qui était sûre de ne pas donner ses voix au Parti Socialiste, et ils ont fait des déclarations montrant qu'ils avaient bien l'intention de dépasser le Parti Populaire et d'être le prochain parti de gouvernement, puisqu'ils sont dans une phase ascendante maintenant depuis plusieurs années.
Bon, et la bataille des partis continue, on verra ça, prochaine étape, le 26 mai lors des élections européennes et puis aussi municipales et pour les parlements autonomes en Espagne. Merci Barbara Loyer, on renverra votre livre « L'Espagne en crise géopolitique au XXIe siècle ». Merci.
Merci.